On parle de licenciement, Claude, ce matin pour commencer.
Des licenciements impressionnants, le tiers des effectifs d'une grande marque mondiale. Mais étrangeté, la compagnie qui licencie s'appelle Oxfam, organisation non gouvernementale, écologiste et progressiste, qui dénonce sans faiblesse les abus du capitalisme, mais qui, dans la difficulté, fait partir 1500 salariés. Et ce matin, l'opinion exécute Oxfam, une supercherie. Car Oxfam, dit le journal, utilise les mêmes astuces de vocabulaire que les affreuses multinationales broyeuses de travailleurs. Ce genre-là, Oxfam accélère les changements stratégiques de ses opérations globales. Et l'opinion se demande si Oxfam est bien placé pour donner des leçons de morale. Cette charge ne vient pas au hasard ce lundi, quand Oxfam publie un rapport sur les dividendes que versent les entreprises françaises du CAC 40. Ils ont augmenté ces dividendes de 70% entre 2009 et 2018. Alors, l'humanité titre sur le grand festin des actionnaires, mais l'opinion conteste un rapport biaisé, caricatural, digne d'une ONG aux indignations sélectives, qui préfère fustiger l'Occident que la Chine et qui traîne sa part de casserole. Et ainsi, mes amis, entre le communiste Luma et le libéral l'opinion, vous avez deux faces de la vérité. Ce que dit Oxfam dans l'Huma, ce que fait Oxfam dans l'opinion. Je lis dans l'Humanité une bonne interview de l'ancienne ministre verte Cécile Duflot, présidente de Oxfam France, qui fustige la vision à court terme d'entreprises qui donnent des dividendes au lieu d'investir dans l'écologie. Oui, mais dans l'opinion, Cécile Duflot est épinglée pour un tweet lénifiant sur le dégraissage de sa boîte. On organise le départ progressif des équipes. Et pour un autre tweet enthousiaste, ça va être génial, on a hâte, qui salue une campagne de recrutement d'Oxfam France, recrutement de jeunes bénévoles. Oui, des bénévoles. On ose imaginer la volée de bois vert que recevrait Oxfam, d'Oxfam, une entreprise débarquant le tiers de ses effectifs et recrutant massivement des stagiaires dans la foulée. L'opinion à la conclusion cruelle. Pendant ce temps, dans le courrier Picard, un homme prend notre avenir au sérieux. Il s'appelle Jean-Luc Verdière, pompier à la retraite de 59 ans et un des membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et Verdière nous demande à nous médias d'être aussi sérieux que lui. Il ne faut pas s'arrêter au buzz. Nous rendons un rapport de 600 pages. Traduction, il n'y a pas que la baisse du temps de travail finalement retoquée ou les 110 à l'heure sur l'autoroute qui méritent attention. Les Échos dissèquent l'enjeu des référendums que les citoyens de la Commission veulent réserver à l'introduction de l'environnement dans la Constitution. Dans le Monde, des politiques élus de la majorité, emmenés par Pascal Canfin, président de la Commission environnement du Parlement européen, s'engagent à être au rendez-vous de la Convention et au-delà, le débat n'est pas médiocre.
On parle d'une autre dispute dans la presse.
Dont le sujet Léa était essentiel puisqu'il s'agissait de la France et de son passé peut-être trouble. Cette dispute opposa des historiens il y a près de 40 ans. Elle fut initiée par un homme qui est mort hier, que célèbre Libération, Mediapart et Le Monde et que réfute Le Figaro. Il s'appelait Zev Sternel. Il était historien et aimait deux pays. Le sien, Israël, dont il avait été soldat, patriote, mais dont il ne ménageait pas le nationalisme. Et le nôtre, la France, où il avait vécu, jeune juif rescapé de la Shoah. Sternel avait l'amour rugueux. Il affirmait que l'idéologie fasciste s'était forgée en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e à la faveur d'une crise de civilisation qui, dans une révolution intellectuelle et industrielle, avait rapproché des nationalistes et des syndicalistes révolutionnaires hostiles à la modernité, aux Lumières et à la démocratie. Le fascisme italien et le nazisme n'avaient été que les successeurs paroxystiques d'un bouillonnement français. Cette thèse éclata en 1983 dans un livre qui fit scandale, ni droite ni gauche. Des grands historiens, René Raymond, Serge Berstein, s'unirent contre Sternel qui écorchait nos arrangements. Il y eut un drame, le grand Raymond Aron mourut d'une crise cardiaque après être allé soutenir au tribunal contre Sternel, un de ses amis, autrefois compromis avec le nazisme. Il y eut des disputes de fond dont vous pouvez imaginer la profondeur en retrouvant sur le site de l'Obs qu'il a remis en ligne l'excellent débat entre Serge Berstein et Sternel qui racontait son fascisme. Tout ceci donc est dans nos journaux, Le Monde, Le Figaro, Mediapart, qui raconte avec gourmandise la guerre des historiens et titre ainsi à propos de Sternel « Il secoua la France comme un premier fasciste, c'est rude mais c'est beau et quel plaisir de relire ces moments où dans l'histoire on parlait de nous. »
Allez Claude, des animaux pour finir.
Des oiseaux d'abord, des chardonnerets élégants que des braconniers trafiquent car on goûte à l'étranger leur beau plumage et leur beau chant et la justice hausse le ton à l'instar de la dépêche qui nous dit ces merveilles menacées. Un boa constrictor ensuite que son propriétaire a perdu, c'est à Antibes et c'est dans Nice ce matin. La coquine, oui c'est une femelle, s'est faufilée via des travaux. Son propriétaire a passé une annonce sur Facebook et a alors subi la colère du peuple internaute. Il jure pourtant que son animal est sans danger, il n'a jamais attaqué son chat, il mange juste ce boa, un rat de 200 grammes toutes les 3 semaines. Tiens, à propos de rats, je lis que désormais à Paris, on l'élimine à la neige carbonique qui l'asphyxie dans ses galeries. C'est dans le Figaro, avec photo, si le cœur vous en dit.
Merci Claude Askolovitch, c'était la revue de presse.